C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les yens.
Come on, guy. Who'll be sweet with me?
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vous.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Il était à peine arrivé sur Terre en France que naissait en Angleterre le premier James Bond 007 contre Dr No, le mythe de l'occidental qui sauve la planète. 45 ans plus tard, en 2006, il réinvente pour le cinéma son pastiche très français, 0 OSS 117. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Il faut en avoir vu des films pour savoir les pasticher, les détourner et surtout raconter derrière les vannes le passé politique et diplomatique de la France avec l'ironie d'aujourd'hui. Bonjour Jean-François Alain.
Bonjour, bonjour Christine, bonjour Laurent, bonjour à tous et bonjour à toutes. Voilà.
Auteur historique des Guignols, de l'info avec Benoît Delépine et Bruno Gassiot et scénariste pour le cinéma, OSS entre autres, et pour la télé, cette série au service de la France. Je le disais, beaucoup de cinéphilie derrière cette écriture, d'où ce souhait de vous entendre ce matin parler de cinéma et votre liste ratisse large. De Mankiewicz à Jean-Pascal Zadi, en passant par Truffaut et Georges Miller, c'est dire. Enfin, d'autres choix, les nôtres pour les longues soirées de printemps, des livres et des films en attendant l'écran large. C'est parti, j'écoute.
Je vais excuser ces manières un peu cavalières, mais nous tenions à vous parler tranquillement, double 1-7.
Non, en réalité, on dit 117. Et en plus, moi, je vous dis ça, mais moi, c'est Flantier. Monsieur Flantier.
Bonjour, je suis le colonel Staman. Voici le colonel Kuttner.
Enchanté, Noël Flantier. Je fais un reportage sur le Brésil pour un journal du soir.
Je vous en prie.
Nous savons qui vous êtes.
Et nous savons aussi ce que vous faites au Brésil, double 117.
Juste 117.
Nous sommes à la recherche du même homme.
J'écoute.
Le professeur von Zimmel.
J'écoute.
Allons droit au but. Êtes-vous prêt à faire équipe avec le Mossad?
J'écoute.
Non, c'est nous qui vous écoutons. Êtes-vous disposé à travailler avec le Mossad?
Le
Mossad. Les services secrets israéliens.
Dame, rechercher un nazi avec des juifs? Quelle drôle d'idée.
Jean Dujardin dans OSS 117. Rio ne répond plus, deuxième opus en attendant le troisième bientôt. OSS 117 que vous avez créé, Jean-François Alain, à partir des livres de Jean Bruce, en ne gardant que le nom et le matricule. Le reste est un pastiche des séries B d'aventure ou d'espionnage voilà. Des années 50-60. Ça veut dire en même temps rendre hommage à une certaine forme de cinéma?
À une certaine forme de cinéma, une certaine forme de naïveté dans la narration.
Ouais.
Et avec, comme je suis quelqu'un d'un petit peu lâche et sournois, d'utiliser tous ces codes-là pour se moquer aussi de la France contemporaine. Voilà.
Inventer un nouveau héros, un génie et un con, dites-vous, attendrissant,
ah, oui.
Insupportable, réac, beau gosse et con à la fois.
Oui, voilà, malgré sa bêtise, malgré son manque de repères et son manque d'intuition, les faits lui donnent toujours raison. C'est-à-dire qu'il résout toujours les affaires. Et ça, c'est extrêmement rageant, mais je pense très jubilatoire pour tout le monde.
Le prochain, le troisième se déroule en Afrique noire, s'appelle Alerte rouge en Afrique noire. Il va sortir cet été normalement.
Normalement, il devait sortir en février, en avril, maintenant en août.
Est-ce que c'est compliqué en 2021 de faire des vannes là-dessus, justement, pour une action qui se situe en Afrique?
Oui.
Oui.
Oui. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure avec le film de Jean-Pascal Zadi.
Ouais.
C'est pour ça que je l'avais choisi.
Bien
et puis,
sûr.
Oui, c'est compliqué parce que tout le monde est persuadé que le politiquement correct règne partout. Mais je pense que dans le public, chez les spectateurs, je pense qu'il n'en règne pas. Je pense qu'il y a des gens ont envie de voir ce genre, enfin, les gens, en tout cas, une partie de la population a envie de voir ce genre de film. Un humour, peut-être un peu plus caustique, un peu plus dérangeant, qui ne prennent pas le spectateur par le coude tout le temps ou par la main pour lui expliquer des choses.
Jean Dujardin, il dit un truc bien, il dit « on sait de quoi et de qui on rit ».
Exactement.
Oui.
Mais vous dites ça parce que vous me coupez comme si moi je disais quelque chose de pas bien. Je l'ai un peu mal pris, mais...
Tout de suite à la censure.
Oui, voilà. Enfin, quand même, Christine.
Bon. Jean Dujardin, c'est une référence quand
mais,
même
voilà, mais, qu'est-ce qu'il est drôle, ne serait-ce que dans l'extrait qu'on a écouté, qu'est-ce qu'il est drôle. Et je peux vous dire que dans le troisième OSS, je pense que c'est le meilleur OSS 117 pour Jean est formidable. Voilà. Je ne vends pas le film, mais Jean est exceptionnel dans le troisième.
Et
voilà.
Quand il répète beaucoup à l'avance ses phrases et il les dit dans la vie courante, c'est ça?
Ah, tout le temps, oui. Tout le temps. Donc, je voudrais pas partager, être dans sa maison pendant tout ça, parce qu'il apprend le texte, il le lit je ne sais combien de fois. Après, une fois que le film est monté, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que notre film est prêt à sortir, je pense qu'il l'a vu 12 fois, 13 fois. Mmh. Voilà.
Très professionnel.
Ah, très professionnel. Il arrive sur le plateau, il connaît même les répliques des protagonistes. Mmh. Ce qui lui permet, il connaît évidemment son texte, ça paraît évident, mais ça l'est pas toujours. Il connaît son texte par cœur. Mmh. Ce qui lui permet, sur le plateau, d'être à la fois tranquille et de proposer différentes variations de jeu, différentes couleurs, comme on dit.
Un Stradivarius, comme on dit.
Mais tout à fait, voilà, c'est ça.
L'antithèse de OSS 117, ce serait peut-être lui, Ariel, le jeune Français de confession juive qui décide de rejoindre le Mossad des services secrets israéliens dont vous vous moquiez dans OSS 117. C'est Yvan Attal dans Les Patriotes d'Éric Rochant, un de vos premiers choix. Ariel qui, au cours de ses missions, va perdre sa croyance, sa foi en la beauté de l'aventure face aux mensonges et aux manipulations. C'est un film, ça reste un très grand film, Jean-François Allain, Les Patriotes.
Pour moi, c'est un très très grand film et c'est un film unique pour plein de choses. C'est-à-dire que déjà, c'est un film qui ressemble, je pense que c'est la volonté d'Éric Rochant, que je ne connais pas, de faire un film des années 70, un film américain des années 70.
Complètement.
Ce grand cinéma de Charles Berg, Pacula, ou Sidney Pollack, Peckinpah, voilà. Bon. Donc, ça se voit dans la façon de filmer, dans les focales, tout ça. Ça se voit aussi dans l'amorce des plans, où il y a des objets en amorce de plans. Le flou, la netteté.
Alors ça, il dit que ça vient de Sergio Leone.
Ah bah voilà, alors oui, je viens de dire la première bêtise.
Non, c'est pas ça.
10h18.
Je ne le savais pas, c'est en voyant un supplément assez fantastique sur le film, dans lequel il explique qu'effectivement, les amorces de plan, c'est Sergio Leone.
C'est Sergio Leone, voilà. Et puis, il y a... je sais pas, il y a... Alors déjà, je pense que c'est un budget absolument colossal. Ça se tourne dans 3 pays, quand même, je crois. Et puis, il y a une façon de jouer... Et surtout une façon de montrer les espions qui est assez inédite. Alors que, évidemment, Éric Rochant va prolonger, parce que si, j'imagine qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui sont des fans du Bureau des Légendes, c'est vraiment la matrice du Bureau des Légendes. D'ailleurs, il y a même quelques scènes qu'on peut retrouver, et cette façon de jouer extrêmement sérieuse, sans...
Ton froid. Distancié.
Hiératique, comme on dit, voilà, c'est ça. Oui. On en parlait tout à l'heure, ça me fait penser au cinéma de Jean-Pierre Melville que j'adore absolument, et notamment à la façon de jouer d'Alain Delon dans Le Samouraï, mais aussi de tous ces résistants dans l'Armée des Ombres. C'est-à-dire qu'ils ont un destin à accomplir et ce destin doit être accompli quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, voilà. Et qu'est-ce qui m'a pris? Et donc, un destin tracé et rien ne pourra les faire sortir de ce chemin, y compris les pires dégueulasseries. Donc, parce que les services secrets, même quand on est au service d'Israël, qui est un pays qui est né sur une grande idée, on est quand même dégueulasse. Et donc, là, tout à l'heure, on va écouter un extrait.
On va écouter maintenant un extrait.
On l'écoute maintenant avec un comédien. J'en parle après ou...
Maintenant, vous le présentez, c'est Bernard Lecoq.
Bernard Lecoq est un comédien que j'admire, que je trouve formidable dans tous les registres. Et souvenez-vous, il jouait dans Le Piala dans Van Gogh, il jouait le frère.
Bien sûr.
Et c'est quelqu'un qui arrive à passer de la télévision au cinéma sans que personne ne lui mette une quelconque étiquette. Et il a un côté bonhomme, un côté quotidien. Là, il est extrêmement dur. Cette scène est épouvantable.
Alors, cette scène, c'est lorsque Amiel et son équipe s'aperçoivent que leur proie, l'ingénieur atomique incarné par Jean-François Stévenin,
qui est génial,
va tout lâcher, qui est extraordinaire, Jean-François Stévenin.
Le duo est génial.
Ils s'en aperçoivent, ils écoutent tous, et voilà la réaction.
Je sais pas ce que j'ai fait.
Qu'est-ce que t'as fait?
J'ai fait connaissance avec un type au foot. Il s'appelle Bill Lydon. Il est riche. Sympathique. Il travaille entre Londres et Paris. Il fait des affaires.
Mais pourquoi tu parles comme ça?
J'ai fait attention. Je n'ai pas dit ce que je faisais. Régulièrement, on nous en parle au centre. On fait des réunions de sensibilisation. J'ai pas dit ce que je faisais.
Il est en train de tout cracher.
C'est moi qui lui dis ce que je faisais. J'avais ce problème avec le compteur.
Quel compteur?
Il avait ce problème avec son compteur. Il allait acheter tout un tas de ses appareils. Il n'y connaissait rien. Alors, je l'ai aidé. Et j'ai rencontré l'autre.
Allô?
Alors, Rémi?
Salut, c'est Bill Hayden.
Salut.
Ça va, je te dérange pas?
Non. T'es rentré de Londres?
Oui, je suis rentré ce matin. Comment ça va, mon pote?
Ça va.
Dis donc, au cas où t'aurais décidé de te raconter à ta bourgeoise, hein, n'hésite pas à lui parler de Marie-Claude. Ce serait dommage. D'accord? Si jamais il y a un truc dont tu te rappelles pas, moi je peux t'aider, pas de problème. J'ai des cassettes vidéo, des enregistrements. Si par exemple t'as oublié quand est-ce que tu l'as enculé, ben moi je peux te dire que c'était le 12 novembre, tu vois. N'hésite pas à m'appeler surtout au cas où t'auras un trou. Allez, ciao.
Les Patriotes d'Éric Rochand avec Yvan Attal aussi, Bernard Lecoq bien sûr, Sandrine Kiberlin.
Qui joue Marie-Claude.
Je vous signale donc sur le DVD, le supplément de DVD de la Gaumont, le supplément est génial. Il raconte toute la fabrication du film, un an d'écriture, des mois de préparation, 24 semaines de tournage. Vous le disiez, Jean-François Alain, dans trois pays, à Paris, à Washington et à Tel Aviv. Il raconte sa mise en scène, donc il raconte Cannes, et ensuite il raconte pourquoi ce film a tout changé dans sa vie. Donc, c'est vraiment passionnant, Les Patriotes.
En bien et en mal.
En bien et en mal,
bien sûr. Parce que le film a eu un destin un peu, comment dire, pas tragique, mais enfin, je sais pas, empêché, voilà.
Un film politique encore pour son deuxième choix, un film espagnol, El Reino, de Rodrigo Sorogoyen. Manuel López Vidal est un homme politique influent dans sa région alors qu'il doit entrer à la direction nationale de son parti. Il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption qui menace un de ses amis les plus proches. Pris au piège, il plonge dans un engrenage infernal. Tu vas écouter un petit morceau de la bande-annonce.
Qui est-ce, usted?
Lo siento, pero no entiendo la pregunta.
Sí, sí, la entiendo. ¿Quién es Manuel López Vidal?
Un ciudadano normal.
¿De verdad se considera un ciudadano normal?
¿Qué ha pasado?
Hay unas grabaciones.
El registro ha comenzado a primera hora de la mañana.
A partir de ahora quiero que me lo cuentes todo.
¿Te dije que no te quedaras con pruebas o no te lo dije?
¿Con quién has hablado de lo nuestro? ¡Lema tu puta incontinencia verbal, joder!
Que mi nombre ya ha salido en los papeles y yo...
El Reino de Rodrigo Sorogoyen, Jean-François Alain, ce qui est intéressant, au lieu de choisir le point de vue des poursuivants de la police, ils choisissent le point de vue du politique qui s'enfuit. Alors, et c'est basé sur une vraie affaire.
Sur une vraie affaire, mais nous, on ne sait pas du tout de quel parti politique il s'agit.
Non.
On ne sait pas, l'affaire est un peu nébuleuse, mais c'est pas tellement ça qui compte. Ce qui compte, c'est le destin de ce bonhomme, qui est de tous les plans, qu'on suit. D'ailleurs, le début du film est incroyable parce que la caméra n'est jamais stable. Et le début du film est au bord de la mer, il passe un coup de fil, et après, c'est un plan séquence. Où on le suit tout le temps, c'est lui qui amène le rythme du film.
C'est un thriller politique,
c'est un fusible qui ne veut pas sauter, voilà. Donc on entend souvent parler de fusibles qui vont sauter, lui il veut pas sauter et fait tout pour ne pas sauter et se met lui-même dans un piège de plus en plus costaud et de plus en plus serré. Et ce sont des magouilles politiques, mais là il va avoir affaire à de vrais truands, enfin de vrais voyous, et ça va aller jusqu'à, il va pouvoir peut-être perdre la vie. Et la chute du film, la toute dernière scène est incroyable. Je la révèle pas, mais c'est incroyable. Voilà.
Ce type ne se remet jamais en question.
Jamais.
Comme
justement,
beaucoup, comme c'est beaucoup d'hommes
politiques. Voilà. Et perd l'essentiel de sa mission politique.
Ouais.
Alors tout ça est appuyé par donc ce réalisateur. J'ai noté son nom parce que je m'en souviens.
Rodrigo Sorogoyen.
Merci Christine. Donc c'est un formidable réalisateur espagnol qui a fait un autre film qui est très bien qui s'appelle Que Dieu nous pardonne que j'ai vu et qui est avec le même acteur, cet acteur fabuleux Antonio de la Torre. Qui a joué aussi, donc je dis ça parce que je connais pas bien le cinéma espagnol, je connais La Isla Mínima, qui est un film policier au début des années 80, après le franquisme. Et ça, c'est un acteur génial. Et je vais faire un petit clin d'œil un peu bourrin, il ressemble à Léo Messi. Voilà, c'est pour donner aux gens peut-être envie de... Voilà, je ne sais pas. Acteur absolument incroyable, avec une énergie folle, et ce film va très très vite, tout le temps.
Évoquez donc la politique presque au présent, hein, c'est à 10 ans près. Vous le faites beaucoup au passé.
Oui, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un truc un peu sournois de ma part, ça me permet d'évoquer la France d'aujourd'hui.
Et pourquoi pas l'affronter directement?
Parce que je pense pas avoir ces compétences-là, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui essaie de faire des choses drôles. Donc,
mais c'est drôle aujourd'hui aussi, ça peut être drôle.
Là, en ce moment, la pile, là maintenant, non.
Non, mais
quand je vois un film, il y a un film politique français que j'ai trouvé absolument extraordinaire, c'est...
L'exercice de l'État.
Exactement. De Pierre Scholler.
Oui.
Voilà, et ça, je ne saurais absolument pas faire ça. Voilà. Et c'est, puisque ces gens savent le faire, Michel Blanc est incroyable, Olivier Gourmet incroyable, c'est extrêmement bien filmé.
Vous voulez toujours le décalage, vous voulez toujours un décalage.
Oui.
Mais
voilà.
Même dans l'humour et même dans la cynisme ou dans l'ironie.
Tout le temps.
Et dans l'histoire.
Oui, tout le temps, sinon les choses deviennent trop tristes ou trop. Un décalage, et puis s'amuser, pour moi, c'est important, rire, c'est important, et puis. je m'arrange pour mettre quelque chose d'autre dedans, et puis chacun, c'est une auberge espagnole, chacun... Non, c'est pas une auberge espagnole, parce qu'il faut amener les choses dans les auberges espagnoles. Disons que chacun y trouve ce qu'il a envie d'y trouver, voilà.
On part en Amérique, d'abord celle des années 50, dans un grand film signé Mankiewicz, chaîne conjugale, trois femmes partent en croisière, laissant leurs maris respectifs. Mais avant de partir, elles reçoivent une lettre de leur amie inconnue, dans laquelle elle prévient qu'elle part avec le mari de l'une d'entre elles. Mais quel est-il ? Trois femmes, trois histoires et une réflexion souvent cynique sur le mariage.
Oui.
Les rapports entre les hommes et les femmes. Et parmi elles, il y a Rita Phillips, c'est la femme moderne. Elle gagne plus que son mari, George, incarné par Kirk Douglas. Pourquoi cette histoire-là en particulier ? On écoute l'extrait ou alors présentez-le peut-être avant ?
Alors oui, donc la femme de Kirk Douglas donc écrit des émissions pour la radio,
oui.
Mais la radio commerciale américaine de la fin des années 40.
Ouais, donc, pas
France Inter. Donc ce qui compte, c'est des sponsors. Et Kirk Douglas, lui, est prof de littérature dans une université, donc il gagne moins que sa femme. Voilà. Et il y a un repas un soir où ils reçoivent ceux qui s'occupent de la pub à la radio. Et on les force à écouter cette émission de radio pendant 2 heures. Et la femme qui s'occupe de la pub a eu la mauvaise idée de demander à Kirk Douglas ce qu'il pense du texte qu'on a écouté, de cette espèce d'histoire. Voilà.
Le but que veut atteindre la radio, autant que je puisse m'en rendre compte, c'est de prouver à la masse qu'un désinfectant peut lui apporter le bonheur, une pâte dentifrice de succès et qu'un laxatif attire le romanesque.
Quoi ?
Vas-y, mou, Georges.
Fiche-lui la paix, il est plus drôle que Linda Gray.
Ne pense plus, dit la radio, et on te paiera pour ça. C'est pas lire, dommage, mais un yacht et $1 million t'attendent pour avoir écouté notre programme ce soir. Prends garde, dit la radio, est-ce que tu as peur de transpirer ? Est-ce que tes dents tombent ? Est-ce que tes cigarettes te font tousser ? Est-ce que ton foie ne fonctionne pas d'une manière convenable ? Si tu ne te sers pas de nos produits, tu perdras époux, travail et la vie. Mais prends nos produits et tu deviendras riche, et toi et ta famille.
En voilà assez maintenant, Georges. Vous n'y êtes pour rien, vous, mon petit. Qu'il voit un spicâtre.
Psy, pas spicâtre, et le spicâtre, je vous le laisse.
Je fais plus confiance que jamais, ma chère, à votre compétence dans les problèmes familiaux.
Défichons le camp, ça devient trop spirituel pour moi.
Si rituel, pas spiri. Nous en allons, monsieur Hollingsway. Encore au revoir, ma chérie.
Au revoir.
Et bien sûr, vous comprendrez qu'étant donné les circonstances, votre petit projet est plus qu'impossible. Oh,
bien sûr.
Au revoir, monsieur Phipps.
Au revoir.
Jean-François, la chaîne conjugale 1949, oui. Sacré discours hein, quand même sur la pub.
Oui, alors je me rends compte que la VF donne un côté un peu ancien au film. Et je voudrais pas que ça décourage ceux qui ont envie de le voir.
Ouais.
Ce film est incroyable. Alors je vous disais tout à l'heure, avant qu'on commence, que cette scène a été longtemps censurée à la télévision américaine. Parce que cette scène a une actualité incroyable. Mais Mankiewicz est un grand réalisateur. Et c'est surtout un des rares réalisateurs de cette époque-là qui était scénariste.
Oui.
Ce qui fait qu'il a fait peu de films. Et donc le film, je vais vous permettre une petite parenthèse, donc cette voix off de cette femme qui raconte qu'elle est partie avec un des trois maris,
oui.
Et chacune va se demander si c'est elle. Donc il y a trois flashbacks, comme souvent chez Mankiewicz,
oui.
Mais évidemment ça rappelle une série télé qui s'appelle Desperate Housewives.
Et oui,
c'est exactement la même structure et c'est le même milieu social. Et donc ce film a une modernité, parce qu'il y a ce couple-là où la femme gagne plus que l'autre, il y a l'autre couple où l'homme pense que sa femme l'a épousée parce qu'il est riche, et elle pense qu'il l'a épousée parce qu'elle est belle, et il y a l'autre couple, le troisième, dans lequel la femme pense ne pas être du même milieu, et ce qui est génial, c'est qu'ils se sont connus à l'armée, donc en uniforme, et l'uniforme, il n'y a pas de milieu social apparent.
Ouais.
C'est un film incroyable, d'une modernité, incroyable, tout à fait actuel, et avec des dialogues. Et puis Kirk Douglas, qui est un acteur et un producteur fabuleux.
Il faut noter aussi le remarquable ouvrage Mankiewicz de Patrick Brion aux éditions de La Martinière, voilà, avec une iconographie magnifique comme
d'habitude.
Patrick
Brion, à qui on doit beaucoup de choses.
Dans notre cinéphilie, voilà. L'Amérique bien pensante des années 60, dans ce mélo, tout ce que le ciel permet, Douglas Sirk. Alors, c'est l'histoire de Carrie Scott, mère de famille, sans histoire apparemment, qui se consacre au bonheur de ses deux enfants, qui rêve encore du grand amour.
Qui est veuve.
Et c'est dans cette condition de femme seule qu'elle rencontre le séduisant pépiniériste qui est incarné par Rock Hudson. En gros, il est pauvre, elle est riche, elle est plus âgée, il s'aime, une femme avec ses doutes, ses angoisses, surtout contre les conventions sociales hyper lourdes,
puisque... Ses enfants, on ne sait jamais quel âge elle a précisément, on suppose qu'elle a 45 ans à peu près. Donc ses enfants lui expliquent, j'ai noté une phrase que j'ai trouvée absolument incroyable, c'est que sa fille lui dit que Freud a dit que passé un certain âge, le sexe était incongru. Voilà. Donc le film commence comme ça. Donc elle a 45 ans, donc sa vie est quand même plus ou moins terminée. Ouais. Et elle tombe amoureuse de ce jardinier qui lui aussi tombe amoureux d'elle. D'ailleurs, il tombe même presque définitivement amoureux d'elle que de lui. Il a presque un rôle féminin. Et c'est Rock Hudson, donc 1m90 de muscles, 15 ans de moins. Et la personne que personne n'a remarqué, bien qu'il fasse tous les jardins du quartier, on est encore dans une banlieue très riche, et elle l'a remarqué. Et donc ses enfants vont tout faire pour qu'elle ne se marie pas avec lui. Ses amis vont tout faire, les commérages. Et c'est un... Alors il y a eu une sorte, non pas un remake, mais un film absolument extraordinaire de Todd Haynes qui s'appelle « Loin du paradis
oui. ».
Qui pousse le curseur un tout petit peu plus loin, parce que le jardinier est noir.
Ah, vous oubliez un autre remake, c'est celui de Fassbinder, tous les autres s'appellent Ali.
Ah bah oui, puisque Fassbinder... Est... Alors oui, Douglas Sirk, on parlait de Mankiewicz qui était scénariste, c'est l'inverse de Douglas Sirk, c'est un cinéaste allemand. Oui. Vous me corrigez aussi d'une bêtise, et je vais en dire un paquet si vous me corrigez pas. Et donc Douglas Sirk est un cinéaste allemand extrêmement cultivé, oui. Et voilà, et très fort, metteur en scène de théâtre. Lui, contrairement à Mankiewicz, n'écrivait pas.
Donc, il est danois, pardon, hein, Sirk.
Non, il est né au Danemark, mais il est allemand.
D'accord.
Évidemment, puisque sa femme était, vous savez, une actrice nazie et tout ça.
Oui.
Et donc lui, on lui donnait des scénarios, et il amenait sa patte à ces scénarios. Et des scénarios qui n'étaient pas bons, c'était ce qu'on appelait des weepy movies, c'est-à-dire des films pleurnichards. Donc là, c'est un mélo, mais c'est flamboyant, c'est beau, il joue sur les couleurs. C'est vraiment du mélo assumé, il n'y a pas de deuxième degré, c'est extrêmement beau. Et vous voulez qu'on passe la scène, c'est ça, je vous vois. Voilà,
je vois, non, je vous en prie. Cette scène de cet ami qui débarque chez elle et qui lui conseille ceci.
Bonjour Karine.
Bonjour Sarah.
C'est pour t'adresser une invitation à dîner que je viens. Mona et Marc seront de la partie.
Mona?
Je sais, mais je leur dois cette invitation depuis longtemps et Mona peut être très amusante à condition de ne pas lui servir de cible.
Je crois que je vais tout de même accepter. Après tout, je ne suis pas sortie depuis le départ de Harvey. Mais Mona... Excuse-moi, c'est malgré moi, tu sais.
Tu as tort, Karine, de rester ici à ne rien faire de tes dix doigts. Tu devrais au moins t'acheter un poste de télévision.
Oh non.
Pourquoi? Parce que l'on prétend que c'est la dernière compagnie des femmes seules?
C'est tout à fait charmant à toi, Sarah, mais je ne veux pas de télévision.
Mais c'est que moi, j'en ai déjà parlé sérieusement au dépositaire, le charmant Monsieur Weeks. Je te conseille vivement d'aller le voir, Karine.
Excuse-moi.
Alors pourquoi cet extrait sur la télévision, Jean-François?
Alors parce que j'ai essayé de faire une petite thématique, voilà.
Et dans son coin, il fait une petite thématique.
Voilà, tout simple. Donc voilà cette femme, donc Jane Wineman, qui est d'ailleurs une ancienne épouse de Ronald Reagan, vit des tourments, elle est passionnée, voilà. Bon, et on lui dit mais tu devrais prendre la télévision, t'as quand même 45 ans, enfin on donne pas son âge. Et tu appuies sur un bouton, tu as le drame, le rire, la comédie, tout ça chez toi. Donc elle n'allumera jamais cette télévision, qui est un énorme objet sur pied, sur roulette.
On verra son reflet, ou le reflet du feu, voilà. C'est très beau ça.
Et elle a une cheminée magnifique, il y a des couleurs pourpres.
Oui.
Et il y a cet objet noir, un gros cube au milieu, un monolithe, qu'elle est obligée de contourner quand elle est en train de penser à son jardinier. Et je voudrais faire juste un petit truc sur Rock Hudson, qui est aujourd'hui, qui a une image pas... d'un acteur un peu nié, et pas très bon. Moi je trouve que c'est un formidable comédien, et dans le drame, et dans la comédie, et voilà.
Et dans la vraie vie, l'actrice avait 38 ans et lui 30 ans, donc pas un écart.
Pas un écart, mais comme dans le Lauréat.
Exactement. Voilà. C'est vrai que Mrs. Robinson, elle a 35 ans en fait, pour de vrai.
Oui, comme Dustin Hoffman a fait vieux très très très, a fait jeune très 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 longtemps.
Oui. Retour en France avec ce film culte de François Truffaut, Baiser volé, Jean-Pierre Léo, Claude Jade. Antoine Doinel, toujours amoureux de Christine Darbon, cherche un emploi après s'être fait renvoyer. Veilleur de nuit, est engagé dans une agence de détective privé. On lui confie une mission auprès d'un certain monsieur Tabar, propriétaire d'un magasin de chaussures, qui n'est pas aimé, dit-il, par son personnel. Et surtout, Doinel va rencontrer, eh bien, Madame Tabar. Pourquoi ce choix? Parce que le...
Ce choix du film.
Ouais.
Alors, je vous disais, ce n'est pas mon Truffaut préféré, j'adore La peau douce ou même La chambre verte. Mais dans ce Truffaut, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que c'est comme un peu, justement, comme une série télé, une mini-série télé. C'est-à-dire qu'il y a, plusieurs épisodes. Il y a le premier, les 400 coups. Et puis après, je crois que c'est Langlois qui a donné l'idée à Truffaut en disant pourquoi tu ne fais pas vieillir ton personnage. Donc, on le suit pendant plus de 20 ans.
Ouais.
Donc, il y a
celui-ci.
Voilà. C'est unique. Et le dernier, comme toute bonne série télé, le dernier film est moins bon. C'est la moins bonne saison.
L'amour en fuite.
Voilà, l'amour en fuite, mais avec plein de flashbacks, y compris des flashbacks inventés.
Donc, il faut le redécouvrir.
Il faut le redécouvrir.
Je vous jure.
Voilà.
Ouais.
Et puis, il y a Dorothée. Dorothée, l'animatrice télé, qui est formidable.
Ouais.
Et donc, on voit Antoine Doinel enfant. Et puis après, là, c'est les tourments de l'amour. Donc, c'est un film qui me fait beaucoup rire, mais qui est en même temps, quand même, extrêmement triste, parce que ce gamin qui est quasiment orphelin cherche toujours une famille. Et il aime toujours les parents de ses petites amies. Et donc, il est détective privé, il est veilleur de nuit dans un hôtel, il est réparateur de télé, enfin voilà. Donc, dans cet extrait-là, il travaille dans une agence de détective, et puis, c'est des sortes de confessionnals, ou même quasiment de psychanalyse, quoi. Chacun vient transmettre son problème.
Et on va pas écouter l'extrait parce qu'on n'a pas le temps.
Mais c'est pas grave, parce que je vous avais dit, je suis
parce qu'il est très connu, ce film en plus. On va plutôt aller vers la France d'aujourd'hui. Dans ce faux documentaire, et son vrai sujet, c'est la présence des Noirs dans le cinéma français.
Oui.
C'est tout simplement Noir de Jean-Pascal Zadi et John Wax, parce qu'on on ne cite jamais John Wax, lui-même ne l'a même pas remercié.
Mais non, mais il avait tellement de choses à dire qu'il n'avait pas, j'ai pas trop compris, il a tellement parlé d'autre chose que de tout ça qu'il a oublié de citer son pote.
Alors, tous les protagonistes jouent leur propre rôle, et vous avez choisi donc cet extrait qu'on va écouter tout de suite d'un débat dans un restaurant entre Lucien Jean-Baptiste et Fabrice Eboué.
En fait, tu m'invites au resto pour me proposer ton nouveau film en tant qu'acteur et après tu descends mes films.
Non, ce que j'essaie de te dire, c'est que Case Départ ne met pas les Noirs en valeur. Ça va, ça tu comprends. Ça met pas les Noirs en valeur, c'est tout. J'ai rien dit d'autre.
Parce que toi, dans tes films, tu mets les Noirs en valeur. Dans Première Étoile, tu mets les Noirs en valeur. Tu as vu Première Étoile? C'est une famille de Noirs qui part au ski et qui tombe le cul dans la neige. Le bon cliché, les Noirs savent pas skier, ils tombent, Première Étoile, on se fend la gueule. Et en plus, le mec s'arrête pas là, il a fait Deuxième Étoile, attends. Après ce sera Troisième Étoile et Chamois d'Or. Des Noirs qui tombent le cul dans la neige, après Spike Lee, Lucien Jean-Baptiste, défenseur de la cause noire. Merci, attends.
Pas toi, Fabrice, pas toi.
Quoi, pas moi? Tu critiques mes films, je
descends les tiens. Attends, je critique tes films, pourquoi je critique tes films? Parce que t'es en train de me dire que ton film sur l'esclavage, enfin que les vidéos de monsieur ne sont pas comme tes films. Lui, il se fout de la gueule de l'esclavage dans ses vidéos, toi, tu te fous de la gueule de l'esclavage dans tes films.
Non,
c'est ça que j'essaie
je
de dire.
De la gueule de l'esclavage.
C'est tout. Moi, je fais pas de films sur l'esclavage.
Bah, moi non plus.
Des films familiaux, un peu social, Dardenne, Ken Loach, un peu plus comique.
Ken Loach, à la Ken Loach, t'es noir qui sont le cul dans la nage, Ken Loach.
Non, ça, c'est ton résumé, ça.
C'est quoi le prochain? Ça va s'appeler Premier Dauphin. Non, c'est une grosse dame noire qui tombe dans la piscine et tous les plans de la piscine rigolent. T'es dans les clichés, mon pote.
Bah oui, je suis dans les
clichés. Tu fais des films de vendus, des films de Bounty, voilà.
Tout simplement Noir. Le scénario est signé donc, effectivement, Jean-Pascal Zadi, John Wax, plus Fabrice Eboué qui joue dans cette scène-là et plus Kamel Guémera. C'est couillu, de faire ça.
Ah, je trouve, justement, à une époque où on parlait tout à l'heure de politiquement correct, à une époque où on dit qu'on ne peut plus faire des tas de choses qu'on faisait avant, et notamment dans le cinéma comique français. Je trouve que ce film est une excellente nouvelle. C'est vraiment très drôle. C'est très culotté. Et je sais que certains reprochaient une sorte de suite de sketch. Parce qu'il faut dire aux personnes qui ne l'ont pas vu que c'est tourné comme un documentaire. Voilà. Ce qu'on appelle un mockumentaire. Je crois qu'il y a un terme comme ça. Bon, bref. Donc,
c'est pour moi. Juste dire qu'il veut organiser une marche.
Voilà, une marche d'hommes noirs dans Paris pour protester contre la façon dont sont traités les noirs en France. Et ce qui était très drôle, c'est que dès le départ, déjà, il y a hommes noirs. Donc, il y a un problème avec les femmes noires qui comprennent pas pourquoi elles sont pas invitées.
Oui.
Et puis ensuite, à quel point est-on noir? Par exemple, si on a les cheveux lissés, est-ce qu'on est encore noir? Et si on est un peu métisse, ce qui est le cas d'Eboué, ou le cas de Derek Judor, qui va convaincre qu'il est noir, si on est, comme Bikash Dorasso, le footballeur, vraiment noir de peau, mais plutôt d'origine indienne, est-ce qu'on fait partie de... Enfin voilà, il y a toute cette question, et ce ne sont pas des sketchs, c'est chaque intervention, ils sont tous extraordinaires et prennent des risques incroyables. C'est-à-dire, joue vraiment avec leur personnage, je pense au rappeur Soprano, tout ça. Enfin, c'est très, très marrant. Et à chaque fois, ça va un petit peu plus loin. On décortique cette espèce de manifestation un peu bidon, finalement, puisque lui, c'est surtout pour sortir de son statut d'acteur un peu peu utilisé.
Ouais.
Et on va de plus en plus loin. Et cette scène est dingue parce que, à la fois, les deux, Lucien Jean-Baptiste et Eboué, parlent de leurs films respectifs et se moquent de leurs films respectifs avec des choses qu'on pourrait effectivement dire si on caricaturait.
Ouais.
Et à la fin de la scène, Lucien Jean-Baptiste prend l'accent martiniquais et revient torse nu avec une machette pour les découper en deux.
Ouais.
Donc ça va extrêmement loin, extrêmement loin. J'ai pris un plaisir dingue à voir ce film. Et puis, quand on dit tout le temps, est-ce qu'on peut rire de tout? Mais est-ce que, surtout, on arrête de rire de rien avec ça. Ouais. Voilà, on rit trop de rien. Ça, c'est extraordinaire, c'est culotté, ça nous interroge. Voilà, bravo.
Vous n'étiez pas censuré au Guignol de l'Info?
Non.
Vous n'êtes pas censuré non plus. Quand vous écrivez, par exemple, je le disais au début de cette émission, le troisième volet d'OSS en Afrique.
Oui.
Vous vous êtes interrogé sur l'humour que vous alliez balancer.
Vous êtes auto-censuré, c'est peut-être ça la question.
Oui, mais c'est surtout ça le problème, c'est l'auto-censure, comme l'auto-censure des décideurs dans les médias. Non, la question que je me suis posée principale, c'est que il y a un public d'OSS 117 et il y a un public qui est très attaché à ces deux films. Et il est hors de question pour moi de ce public, dont je fais partie, moi j'aime OSS 117, il est hors de question pour moi en tant que scénariste de les décevoir. Ou de, alors je peux le faire malgré moi, ou d'aller un cran en dessous, ou de, il n'est pas question de faire un film de plus pour faire 3, puis 4 films, puis voilà. Donc non, il était hors de question de baisser la garde. De, j'avais envie toujours que ça dérange, que ça fasse rire, que ça gêne. J'aime beaucoup la gêne. Il y a de la gêne dans le film de Zadie. J'aime beaucoup la gêne, à l'instar de Ricky Gervais ou des gens comme ça. La gêne dans l'humour, ça m'amuse beaucoup. Donc pas de censure, ni de ma part, ni de la mienne. Après, il y a la limite de mon talent, mais voilà.
Tout simplement noir, ça dénonce aussi la non-présence des acteurs noirs dans le cinéma français.
Ah, totalement, bien sûr. Et je trouve que la façon dont chacun, dans cette scène qu'on vient d'entendre, la façon dont chacun critique l'autre sur la manière dont il traite les noirs, c'est vertigineux.
On va terminer avec... c'est là où on regrette vraiment le grand écran pour voir ce film, justement. Mad Max Fury Road.
Oui, et puis on parlait de 3 et de 4. Voilà un 4. Voilà un Mad Max 4.
Oui.
Et là, on termine par un film vraiment à voir absolument qu'au cinéma. Oui.
La trilogie originale était marquée par la crise pétrolière. Dans celui-là, c'est plutôt une critique du capitalisme, l'environnement, les disparités sociales, la montée de l'extrémisme. Je propose, d'ailleurs, c'est vous qui l'avez choisi, cette ouverture de... On se rappelle, à Cannes, c'était la folie d'avoir...
6 minutes de dingue, le début, 6 minutes de dingue.
Dès le premier plan, il s'est réapproprié sa saga, George Miller, fallait le faire quand même, on y est, le sable jaune, le bleu du ciel, la silhouette du héros, on écoute.
Je m'appelle Max. Mon monde est à feu et à sang.
Pourquoi vous leur faites mal ?
C'est le pétrole, pauvretage.
La guerre du pétrole.
Du pétro-gaspille.
Du gaspille. Du gaspille.
La pénurie mondiale, c'est l'eau.
C'est la guerre de l'eau.
Il y a longtemps, j'étais flic, un guerrier de la route en quête de justice.
Nous avons abouti au pic du délire terminal.
L'humanité s'est dévoyée, elle terrorise.
La terre est acide,
la moelle de nos os est empoisonnée.
Quand le monde s'est effondré, chacun de nous à sa manière a été brisé. C'était difficile de savoir qui était le plus fou. Moi, tous les autres.
Oh, la voix en français.
Là, il mange un lézard. Hein.
Oui, oui, bah, lézard, bien sûr. Il y a Tom Hardy, bien sûr, mais il y a surtout Charlize Theron. Oui. Alors là, c'est elle qui conduit les femmes combattantes, qui les sauve de l'esclavage. C'est l'autre facette de... Et c'est elle, Mad Max.
C'est elle, Mad Max. Et puis, c'est une révolte féminine, au départ. Ce sont des femmes qui s'échappent de cette forteresse et conduites par Charlize Theron.
Oui.
Et ce film est assez drôle parce que, enfin drôle, non, il n'y a rien de drôle, mais étrange.
Ah si, dans la poursuite, parfois c'est drôle quand il crie.
Ah ouais, oui, mais c'est une poursuite, mais c'est-à-dire, on pourrait dire, il y a une expression qui dit le scénario tient sur un ticket de métro.
Mais c'est pas vrai.
Mais non, mais là c'est un aller-retour surtout, parce que c'est-à-dire qu'ils vont quelque part et ils reviennent après. Et si des gens qui nous écoutent là, qui ont été un peu, je sais pas. Pas forcément attiré par l'extrait parce qu'on a l'impression que c'est un blockbuster. C'est un blockbuster, mais c'est pas un film de super-héros. C'est pas un Marvel. C'est-à-dire qu'il est pas là pour sauver le monde. Il est là pour sauver sa propre peau.
Oui.
Et chacun sauve sa propre peau, sauf Charlize Theron. Et il n'est pas propre. Il est blessé. Il est tatoué de force. Il est bon. Et ce film est comment dire ça. Il n'y a pas d'effet, il y a des effets numériques, mais très peu. Les cascades sont réelles.
Oui.
C'est ça qu'il faut voir. Les cascades sont réelles. Et au fur et à mesure, je me souviens de cette scène de Indiana Jones dans laquelle Indiana Jones progressait dans un train, vous vous souvenez? Et dans chaque wagon, il y avait une attraction différente, il y avait des animaux, tout ça. Là, ce film est comme ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de cette poursuite invraisemblable dans le désert, c'est de plus en plus créatif. Je pense notamment à ces perchistes, je ne sais pas comment les appeler.
Oui. Équilibristes.
Les équilibristes. Le film est très beau. L'image est très, très belle. Et puis, c'est quelque chose de différent par rapport au blockbuster habituel. Moi, ça m'a absolument happé. Je l'ai vu je ne sais combien de fois. Je l'ai même revu pour l'émission, ce qui était inutile puisque je l'avais vu il y a 3 semaines. Et donc, voilà. Et puis, notons, vous parliez de Charlize Theron, qui est la vraie Mad Max. Mais Tom Hardy, il est masqué, il a une sorte de masque de fer. C'est quel symbole, c'est-à-dire qu'il peut à peine parler, à peine bouger pendant tout le film.
Mais les femmes portent l'avenir du monde, parce que dans ces plantes, dans ces pots, il y a des plantes, il y a des graines qui vont sauver l'humanité.
Et puis elles sont normalement les femmes qui sont enceintes, puisqu'on n'arrive plus à faire d'enfants, ou on fait des enfants dégénérés. Voilà.
Vous restez avec nous, bien sûr, avant de recommander des films et des livres. On va écouter une chanson brésilienne précédée d'un petit OSS 117 pour la route.
Changez le monde, vous êtes bien sympathique, mais on va déjà vous lever le matin. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Et vous n'allez pas tarder à rester sur le carreau, je vous le dis. Parce que de là, vous êtes en vacances, très bien. Mais à la rentrée...
On n'est pas en vacances.
Bon, ok, admettons. Vous avez pris une année sabbatique, très bien. Mais l'année prochaine, vous avez pensé à ça l'année prochaine? C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas 68 années de la jeunesse. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Déjà.
Cada palmeira da estrada tem uma moça recostada.
Alors, les choix de la rédaction, les choix de Laurent Delmas.
Non, non choix. Oui.
Deux livres, Laurent. On va commencer par ça. C'est génial, ça. Les récits de l'apocalypse, cataclysme et fin du monde au cinéma de Jean-Pierre Andrevon aux éditions Vendémiaire. Météorite, séisme, éruption, tsunami, pandémie, imaginez. Par le cinéma.
Mais oui, absolument, ça vient bien, quoi. Hein, voilà, on aurait faire pas plus d'actualité que ce livre-là. Il tombe à pic, effectivement, et il est signé par quelqu'un en plus qui s'y connaît, parce que non seulement il fait des livres savants de ce type-là, mais c'est aussi un auteur de polar et de science-fiction. Donc il sait vraiment de quoi il parle. Et d'ailleurs, les titres de chapitres sont tout à fait réjouissants. En feuilletant la Bible, les colères de la Terre, ça va nous tomber sur la tête, le joli temps des guerres atomiques, bref. On sent que c'est à la fois, voilà, quelqu'un d'inspiré et puis qui de créatif. Et alors, il y a tout un chapitre, comme par hasard, évidemment, consacré à Mad Max et Terminator. Ah oui. Oui, c'est vraiment, on est tout à fait dans le sujet, en sachant, et Jean-Pierre Andrevon le rappelle à juste titre, que tout ça a commencé en 1902, c'est-à-dire que le cinéma n'avait que quelques années, avec un film de Méliès qui s'appelle Éruption volcanique à la Martinique. C'est le premier film catastrophe de l'histoire mondiale du cinéma. C'est dire si, effectivement, le cinéma s'est tout de suite placé sous ce patronage-là. Bref, c'est un bon livre à lire maintenant pour se faire peur un petit peu, mais au moins tranquillement installé chez soi, et surtout pour donner envie, comme on le fait ici, de voir ou de revoir beaucoup, beaucoup des nombreux films dont Andrevon parle. Ça s'appelle, je le répète, Récits de l'apocalypse, catastrophe, cataclysme et fin du monde dans la littérature et au cinéma, Jean-Pierre Andrevon chez Vendémiaire.
L'autre livre, c'est Abbas Kiarostami. Alors là, on change complètement de cap. Abbas Kiarostami, l'œuvre ouverte, signée Agnès De Victor et Jean-Michel Frodon chez Gallimard, hors série Connaissance. Un ouvrage qui couvre non seulement bien sûr le cinéma du réalisateur iranien, mais aussi ses photos, j'en ai vu d'ailleurs, elles sont sublimes, c'était à Arles, ses vidéos et sa poésie, et une idée au centre, Laurent, le partage.
Oui, bien sûr. Bon, est-ce que c'est la peine de dire l'importance de ce cinéaste iranien dans l'histoire mondiale et dans le cinéma mondial? Non, c'est évident. Vous le disiez, le livre, fort opportunément, non seulement parle et en détail de ces 30 films, il y en a même plus de 30 si on compte les courts-métrages, mais aussi des photographies dont certaines sont reproduites dans le livre, qui est aussi un beau livre. Le vidéaste, le metteur en scène, l'artiste qui a fait des installations, le poète, vous le disiez, mais même il a fait des jeux numériques, enfin... le pédagogue aussi, c'était un grand pédagogue, c'était un passeur de cinéma, un petit peu aussi de politique. Bref, De Vittor et Frodon font vraiment essayent d'un portrait total de cet homme aux multiples facettes, découvert, il faut le dire, en tout cas pour la France, en 1990 par Serge Danet. C'est lui le premier qui a repéré le film Où est la maison de mon ami, et il en a parlé dans un article, et c'est à partir de ce moment-là...
Magnifique film.
Magnifique film, bien sûr, et c'est à partir de ce moment-là où effectivement on s'est dit, tiens, ce qui a Stamila, c'est vraiment quelqu'un de tout à fait intéressant. Alors voilà, le livre lui rend vraiment, je dirais, hommage, et un hommage complet. Ça, c'est une très belle façon, je trouve, d'envisager le travail total d'Abbas Kiarostami, avec ce beau titre, Abbas Kiarostami, l'œuvre ouverte. C'est chez Gallimard.
Moi, c'est Close Up, mon préféré, très proche d'Orson Welles.
Bien sûr.
Deux DVD, Laurent, Les Bas-fonds de Jean Renoir, 1936, édité chez Gaumont. Jean Gabin, oui, Jouvet quand même.
Mais quand même, exactement, oui, c'est une des forces du film, 1936, adapté évidemment de Gorky, avec Charles Spack aux côtés de Jean Renoir. Mais ce qui est très intéressant, c'est, bon, d'accord, ils ont des prénoms russes et ils parlent en rouble. Et Dieu sait si l'argent est très important dans ce film. Mais en même temps, ça n'est jamais, il n'y a jamais aucun pittoresque russe, parce que on ne sait pas trop où on est. Renoir, d'ailleurs, a hésité jusqu'au bout à en faire un film un peu russe. On est en 1936, c'est le contexte social, politique, explosif européen, et pas seulement. Et là, on le sent avec ces deux personnages effectivement principaux, Gabin et Jouvet, mais il y a aussi Robert Le Vigan, le fou, il y a Suzy Prime, Gabriello, et tout ça donne un film que moi, j'avoue avoir redécouvert. C'est-à-dire, c'est pas la règle du jeu, c'est pas la grande illusion, mais en même temps, il y a toutes ces belles qualités de Jean Renoir, toutes ces belles qualités humaines, notamment avec cette chance laissé à tous les personnages. Donc ce Blu-ray rend vraiment grâce à ce talent-là, et il y a un final qui est un hommage à Chaplin, je n'en dirai pas plus, mais il y a une image qui est chaplinesque en diable, totalement assumée par Jean Renoir. Et c'est-à-dire le prix Louis Deluc en 1937. C'est un Blu-ray chez Gaumont, ça s'appelle Les Bas-fonds, et c'est signé Jean Renoir.
Le procès de Julie Richards, 1964, premier film de Larry Pierce. Une histoire assez étonnante pour l'époque, 64, un couple mixte dans l'Amérique, donc des années 60, au moment de l'abrogation de la ségrégation raciale dans plusieurs États. Alors, c'était très drôle, Larry Pierce, c'est lui le réalisateur du Frelon Vert et des Mystères de l'Ouest pour la télé.
C'est lui qui avait fait Un tueur dans la foule.
Et Un tueur dans la foule.
Qui est très chouette.
Qui est très très, ouais, absolument. Et moi, j'avoue que j'ai découvert ce film, Le procès de Julie Richards, à l'occasion de son édition par Studio Canal. Le film date de 1964, oui. C'est tout sauf une date innocente, anecdotique, parce que c'est 3 ans avant Devine qui vient dîner ce soir. Donc tout le monde dit, en général, c'est le film qui a permis de débloquer l'image des Noirs. Mais pas du tout, il y avait déjà avant le procès de Julie Richards, et qui est beaucoup plus complexe, qui fait dans la nuance absolue. C'est ça qui fait le prix de ce film, qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment découvrir. Hein. C'est le portrait de cette Amérique des années 60, de cette Amérique qui va enfin aller vers les droits civiques, mais avec quelle lenteur et quel problème. L'actrice principale, Barbara Barry, obtiendra un Oscar en 1964 pour ce film. Il y a des très beaux commentaires de Régis Dubois en bonus. Bref, là, si le DVD nous donne comme ça des occasions de découvrir de telles perles, moi, je trouve ça formidable. Le procès de Julie Richards, c'est au Studio Canal.
Il paraît que le baiser donc de ce couple mixte a été filmé en secret.
Mais bien sûr, la nuit
dans une rue.
Mais oui, et en fait, il joue à la Marelle. Comme ça permettait c'est un peu des enfants qui sont un peu un noir et une blanche qui sont un petit baiser, mais il joue à la Marelle. C'est incroyable ce qui se passe dans ce film.
Avant le cadeau pour Jean-François Alain, je voulais signaler cette remarquable série sur Canal+, signée Thomas Lilti, avec cette deuxième saison d'Hippocrate. Une vague de froid intense, les hôpitaux sont submergés aux urgences de Poincaré, une canalisation saute et l'établissement est inondé, un hôpital en crise et un nouveau chef des urgences, l'immense Bouly Lanners. C'est une plongée dantesque dans les coulisses d'un hôpital, au milieu de toute l'humanité des soignants, leurs doutes, leurs erreurs aussi, leur implication surtout dans un système à bout de souffle. En cela, la série est vraiment très politique, mais sans discours pesant. Les images parlent d'elles-mêmes, au plus près des corps et des esprits parfois malades. Vraiment, avec des comédiens étonnants, Louise Bourgoin en tête, elle est tellement subtile dans ses interrogations. L'hôpital explose, on ne pouvait pas imaginer témoignages filmés plus précis, plus forts, plus pertinents et plus émouvants que celui-ci. On termine en larmes, hein, vraiment. Hippocrate saison 2, disponible depuis le 5 avril sur Canal+. Et enfin, le cadeau pour Jean-François.
Le cadeau Alain. Pour Jean-François Alain. Grâce à Elephant Film, l'éditeur, on est heureux de vous offrir la trilogie du milieu de Fernando Di Leo. Vous qui aimez les films de genre, vous allez être servi. Milan, trois films, Milan calibre 9, Passeport pour deux tueurs et Le Boss.
Alors, je ne connais pas du tout.
Eh ben, tant mieux. Eh ben, tant mieux. Vous allez découvrir comme moi, honnêtement. Moi non plus. Je ne connaissais pas. C'est le polar italien des années 70. Deux qui se passent à Milan. C'est assez rare d'ailleurs. Et un qui se passe évidemment, alors, dans, à Naples, puisqu'il les questions d'argent, de mafia, de politique, de corruption, de violence. Cocktail absolument explosif pour décrire cette société effectivement elle-même au bord de l'explosion. C'est du néo-polar italien tel que l'adore évidemment Quentin Tarantino, oui, ça, bien entendu, voilà, qui lui a piqué notamment cette scène où il y a l'embrasement par explosion d'un cinéma et heureusement chez Di Leo, il n'y a pas Hitler dans la salle. Moi je préfère quand c'est chez Di Leo, voilà. Et ça, Tarantino, mais c'est assumé, l'a totalement piqué. Il y a un bonus. Il y a beaucoup de bonus très intéressants, des documentaires, un livret entier. Vraiment, là aussi, c'est un beau travail d'un éditeur et des fans, donc film, parce que ça donne à voir des choses tout à fait rares et de redécouvrir ce pan entier de la cinématographie européenne. Le néo-polar italien des années 70, c'est vraiment quelque chose de très prolixe.
C'est ce qu'on appelle le giallo?
Non, c'est le néo-polar italien.
C'est le néo-polar italien. C'est encore autre chose.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Jean-François Alain. Merci beaucoup pour vos choix.
Merci.
Et vous,
c'est
à vous le générique. Et oui. C'est à vous maintenant, au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Georges Delerue a écrit les musiques du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Christophe Magère s'est occupé de la préparation. C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destapan. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Jean-François Alain, j'y étais.